Bonjour les joueuses, bonjour les joueurs. Nous sommes le 10 juin 2018, nous sommes sur Des Bretzels et des Jeux, et je suis en compagnie de Thomas Coe, de Space Cowboy. Bonjour Thomas.
Bonjour.
Et soutenu, appuyé
à la technique
des chutes.
Bah salut Cyrus, salut Thomas.
Alors Thomas, donc là t'es sur Des Bretzels et des Jeux pour les Space Cowboys, non?
Oui.
Qu'est-ce que tu présentes sur Des Bretzels et des Jeux?
Eh ben écoute, on présente un petit peu toute notre gamme, c'est-à-dire Splendor et les extensions. On présente toute la gamme des Unlock. Enfin, on a beaucoup de démos en fait, et du coup les gens sont assez friands des démos d'Unlock.
Mais c'est les démos parce qu'il y avait une première démo avec la première boîte. Vous avez fait d'autres, vous avez plusieurs démos?
On en a tout un petit paquet parce que on avait fait d'abord l'élite au lancement du jeu, qui était une démo d'à peu près une demi-heure. Après on a fait la 5e avenue pour le premier Cannes, au moment où on a eu l'As d'or. Et ensuite on a eu une démo qui s'appelle le Donjon de Doaran pour le magazine Ravage, qui est en plus, donc toutes ces démos en fait maintenant sont téléchargeables gratuitement sur le site. Faut imprimer,
okay.
Vaut mieux une bonne imprimante. Et après on avait fait aussi le Temple d'Aura, qui était le mode alors c'est pas vraiment une démo, mais c'est pour les gens qui aiment bien se faire des nœuds au cerveau. On l'avait fait en mode un peu compétition, des énigmes un peu difficiles.
Et puis c'est le truc qui était trop dur pour le mettre dans une boîte, c'est ça?
Oui, en fait c'est surtout que oui, on peut s'autoriser à être un petit peu difficile parce que globalement c'est souvent un truc qu'on fait dans challenge dans les salons et qu'on peut aider les gens si vraiment ils bloquent, comme on n'a pas forcément toujours l'appréciation de ce que veulent les gens. Il y a des gens qui aiment beaucoup le challenge et il y a des gens qui aiment bien avancer, quoi.
Ouais. Donc ce que je veux dire, c'est que si on a déjà testé un scénario de démo, on peut revenir tester une autre fois un autre scénario.
Ah oui, voilà, il y en a tout un pool. Il y en a même un qu'on avait fait pour Cannes cette année qui s'appelle Cabra Cannes, sans jeu de mots facile, et qui voit sortir normalement en Asmomag fin juin. En mode, du coup, imprimé un peu correctement, parce que des fois, c'est ce qui est un peu compliqué, c'est
Asmomag.
Oui, je crois que c'est un Asmomag. Alors, je ne sais pas, vous donner plus de détails.
Je pense que c'est un magazine Asmodée. Tu vois, moi,
je pense que c'est un magazine Asmodée, genre disponible en boutique, spécialisée. J'ai pas beaucoup plus d'infos.
Attends, mais tu viens de lâcher un truc, là. Personne n'est au courant, mais.
Mais sinon, vous prenez quelqu'un d'Asmodée, et puis vous lui demandez des détails. Voilà. Voilà. Moi, j'ai un petit bout de l'information et voilà. D'accord. J'aime bien divulgâcher des
voilà.
Ça va être un truc payant a priori ou c'est
aucune idée.
Je sais pas.
Je suis bien informé.
On n'aura pas de scoop, mais
voilà. Non, maintenant je me tais parce que sinon.
Merci, au revoir.
Non,
pas rien d'autre.
Donc voilà, donc il y avait toute la gamme Unlock et c'est vrai qu'Unlock a tendance à pas mal attirer les gens parce que c'est assez facile d'entrer dedans et de faire les démos. Et puis on a donc du coup après on présente encore Time Stories et Sherlock Holmes aussi. Pareil, on a des démos donc c'est très pratique sur les salons pour comme on a investi pas mal dans
tester,
les jeux narratifs, on va dire que pour pas gâcher ce qui est contenu dans la boîte, on a maintenant des démos jouables pour tous les jeux qu'on veut montrer aux gens parce que c'est un peu compliqué de juste expliquer le principe sans jouer. Donc avoir des démos c'est bien. Et donc du coup, on a quand même aussi un proto d'une nouveauté qui s'appelle Orbis. Qui est un petit peu dans une gamme Splendor un petit peu plus où le principe c'est qu'on est on incarne un dieu et on essaye de former un monde à notre image et l'image de notre monde est plutôt en forme pyramidale. Donc en fait on va avoir des tuiles qu'on va récupérer sur un marché central de 3x3, donc on a 9 tuiles au centre. Quand on va prendre une tuile d'une certaine couleur, en fait on va générer des adorateurs autour, ce qui va faire venir plus d'adorateurs qui nous permettent de récupérer plus de tuiles. Et les tuiles, on va les mettre en forme de pyramide, le principe étant que au début on fait une base de 5, puis après on va poser des 4 dessus, puis 3, puis 2, puis 1. Et donc du coup ça va être un petit peu orienté par le dieu qu'on va vouloir choisir en cours de partie, qui va un peu orienter la manière dont on fabrique cette pyramide. Donc il y a des petites contraintes de pose, c'est que simplement faut avoir des bases, des tuiles pour construire, et puis il y a 5 couleurs dans le jeu, il faut avoir une des deux couleurs sur laquelle on pose une tuile sur l'étage supérieur. Donc c'est un jeu assez simple, pas mal stratégique, un peu dans la veine d'un Splendor plus quand même, peut-être un petit peu plus gamer dans mon appréciation. Après ça c'est un jugement de valeur qui ne regarde que moi. Par contre, on est dans une durée donc de 2 à 4 joueurs, 40-45 minutes, et ça sort donc pour ESN octobre de cette année.
Dans le monde entier, worldwide.
Voilà.
Ouais. Il y a une petite dimension un peu comme dans Viceroy, alors du coup à cette pyramide là que tu construis.
Alors j'ai pas joué à Viceroy, donc je vais avoir du mal à te faire une comparaison éclairée. C'est là où toute mon image s'effondre, où on pense que je joue à tous les jeux qui sortent
et que voilà. Tu viens de te décrédibiliser. Un expert. Moi, je viens de lâcher l'info que t'avais pas le droit et en plus tu te décrédibilises. Voilà. Voilà. 100% de victoire.
Donc, je pense que c'est plus léger c'est vraiment plus léger comme.
Ok. Et alors j'ai entendu parler d'un Kelus 2.
Alors on l'appelle d'ailleurs Retour à Kelus. C'est en fait on a retravaillé. On s'était dit avec William donc l'auteur et puis Cyril l'éditeur d'origine que quelque part en fait Kelus avait entre guillemets des choses qui étaient très plaisantes dans son idée originelle. Sauf que c'est un jeu qui a 12 ans et qui a un certain nombre de petites règles, de petits mécanismes étaient peut-être un petit peu gênants pour les joueurs actuels qui maintenant ont des habitudes de jeu de gestion qui sont peut-être plus épurées ou plus dynamiques sur certains aspects.
Ouais, donc, globalement, ça reste un jeu qui est tout à fait abordable aujourd'hui comme jeu expert. Seulement, effectivement, c'est peut-être plus dans la moyenne de joueurs que vous visez.
Ouais. Voilà, je sais pas, c'est même les joueurs experts maintenant.
On veut que ça aille plus vite.
On a aussi des envies de pas avoir à re-rentrer dans des règles un petit peu complexes. Notamment si on veut le sortir la semaine ou des trucs comme ça, et c'est vrai que les règles de Kelus pouvaient être un petit peu impressionnantes. Le jeu en tant que tel, on n'a aucun regret, donc c'est pas un désaveu. Par contre,
vous n'allez pas rechercher les vieilles boîtes de Kelus pour les détruire.
Non, et donc on a eu envie de retravailler, de dépoussiérer un petit peu le grand ancien, de couper un certain nombre de choses, de rendre les choses plus fluides. Et globalement, dans les gens qui nous on a testé un peu sur pas mal de publics, mais genre notamment le public des anciens joueurs de Kelus qui n'ont pas ressorti la boîte depuis 10 ans disent on rejoue à Kelus de la même manière, vous avez juste rajouté des persos à la place des faveurs, machin, tout ça. Donc c'est pareil. Je dis, mais ça paraît juste plus fluide. Oui, mais en fait, c'est parce qu'on a enlevé beaucoup de choses, en fait. Tu te souviens plus du Kelus originel qui aura sa valeur en tant que tel pour les joueurs qui l'apprécient. Mmh. Et là, on a tenté une autre expérience. Donc voilà, où on a retiré l'argent pour ceux qui connaissent Kelus. On a retiré le bailli. On a retiré les faveurs. On a retiré. En fait, il y a 9 tours fixes plutôt que d'avoir un bailli. Ouais. On a gardé le prévôt, bien sûr, parce qu'on veut que ça reste un jeu un peu méchant. On a retiré tout le tableau de faveurs. Et à la place, il y a quand même des faveurs, mais les faveurs, c'est on a des personnages qu'on va se piquer les uns les autres. Donc il y a un côté interactif. Bien sûr, on surveille énormément l'aspect chaotique. Donc ça ne sera pas chaotique.
D'accord.
C'est-à-dire, c'est un jeu de gestion interactif sans être chaotique. On a aussi essayé de pousser pas mal la rejouabilité forcée. C'est-à-dire que Kelus a une rejouabilité énorme, mais entre guillemets, beaucoup d'experts ont tendance à tomber dans des schémas toujours les mêmes, construire les mêmes choses. Du coup, les parties pouvaient risquer de se ressembler. Tant qu'il n'y avait pas quelqu'un qui leur disait « Mais non, mais si je fais ça, et ben là, t'es surpris. » Et du coup, ça marche plus, ta technique. Donc là, en fait, ce qu'on a fait, c'est qu'on a fait une mise en place où le hasard de certains bâtiments vont être mis en place sur le plateau. On pourra pas forcément tout construire et donc nos habitudes vont être un peu déroutées. Et donc et le hasard n'intervient que dans la mise en place parce qu'on voulait vraiment que ce soit un jeu, ça reste un jeu à information visible et que les gens justement aient pas de surprise en cours de partie. Donc on peut créer de la surprise entre guillemets sur la mise en place et le hasard de mise en place, mais pas au-delà.
D'accord.
Et donc du coup les gens vont devoir entre guillemets plus s'adapter et vont peut-être redécouvrir aussi un Kelus où il peut y avoir une grosse variété de parties en fonction de quels bâtiments ont été construits. Et ça, on a essayé de le pousser un petit peu plus et de le forcer un petit peu plus.
Et alors moi, j'ai entendu que la porte avait disparu.
Alors, comme on fait une émission d'une demi-heure, on va enlever ce sujet. En fait, ça a disparu il y a quelques jours, simplement parce qu'il y avait des grands débats autour de la porte, dont je suis un grand défenseur dans le jeu d'origine, il avait tout son sens. Maintenant, en fait, on a changé quand même pas mal de choses en enlevant l'argent, justement en voyant toute la dynamique de pause d'ouvriers et toute la dynamique de surcoût quand les gens ont passé et combien on faisait payer les gens. Et on s'est rendu compte que la porte, dans les dernières modifs, on l'a gardée très très longtemps.
C'était pas, donc c'était pas pour répondre à plein de joueurs qui disaient « Ouais, mais la porte, ça sert à rien !»
Alors ça, de toute façon, la porte d'Ankelus, originellement, il y a... Là, honnêtement, les joueurs qui disent ne sert à rien, bah, je les invite à venir jouer avec moi et je gagnerai la partie en utilisant la porte. Il n'y a pas de souci. C'est d'ailleurs ce qui m'a permis de gagner beaucoup de parties de Kellus. Peut-être de manière pas honnête, mais bon, bah voilà, la porte existe et elle est utile dans le Kellus originel. Là, honnêtement, d'autant plus que c'est moi qui ai pris la décision de l'enlever il y a pas longtemps
et il y a eu une
discussion qui n'a pas pris très longtemps avec William et qui n'a pas pris très longtemps avec Cyril parce que simplement on s'est rendu compte aussi intuitivement que en effet à ce stade et de la manière dont on avait fait évoluer le nouveau Kellus, il y avait plus de raison de garder entre guillemets quelque chose juste pour le côté fierté de se dire ah oui non il y a encore la porte. Non, il faut que la porte voilà, si elle reste, il faut qu'elle ait un sens.
Faut qu'elle ait une identité,
la porte du coup sera encore une des originalités de l'ancien Kellus, dont encore une fois on n'est pas dans le désaveu. Et en même temps on a voulu du coup on s'est dit que si on pouvait changer quelque chose dans Kellus, c'était quand même la team originelle qui pouvait, c'est-à-dire l'auteur, l'éditeur originel et peut-être le testeur principal du jeu qui pouvait se permettre de changer les choses, parce qu'il y a aussi des gens qui se sont dit ah mais Kellus c'est parfait, il faut rien changer. Pourquoi pas changer des choses et pourquoi pas aller vers un nouvel équilibre et une nouvelle tendance.
Ok. Alors du coup, ça, ce sera... Je te vois porter un t-shirt Istari, ce sera chez Istari.
Alors, bon, je porte un t-shirt Istari, je tiens... C'est surtout parce que mon t-shirt Space Cowboy, je l'ai bien usé hier, qu'il fait vraiment très chaud à Strasbourg, et que
nous qui avons l'odeur, on t'en remercie. Ouais.
Et que donc, du coup, il y a un moment, il faut quand même que je change de t-shirt.
Attends, tu veux dire que Space Cowboy, ils ne fournit qu'un t-shirt?
Non, mais ils n'ont pas les moyens.
Non, c'est surtout que j'en avais emmené qu'un, en effet. C'est peut-être moi qui étais un peu flemmard.
Ça va changer, il y a des gens qui vont faire ta valise maintenant.
Voilà, j'ai été flemmard sur la lessive, en fait. C'est ma faute.
Donc, ça sera Space Cowboys.
Donc, ça sera Space Cowboy, oui. Ouais. Du coup, en catégorie, c'est aussi, bon, voilà, de tenter aussi les terrains, de quelle est l'approche des nouveaux joueurs qui aiment aussi la gamme Space Cowboy pour sa diversité. C'est-à-dire qu'entre un Unlock et un Splendor, on sent qu'il y a déjà pas mal de diversité. Est-ce que les gens aimeront aussi un Kellus dans cette idée-là? Parce qu'il y a aussi des gens qui ne connaissent pas du tout Istari et qui connaissent principalement Space Cowboy, parce que bah voilà,
c'était il y a longtemps maintenant, l'air de rien. Hein.
Ah oui, c'était il y a moins 3 ans, quoi. Donc, c'est vrai que.
Mais à l'échelle du jeu de société.
Non, c'est il y a 2 ans la dernière sortie qui était une extension de Shakespeare. Donc, mais globalement, oui, en fait, le milieu, ça montre aussi que le milieu du jeu est très fluctuant. Faut pas l'oublier. Donc il faut que toujours les gens se rattachent à certaines choses. Et c'est pas forcément de se rattacher à Istari qui est important, c'est de se rattacher à des jeux, à des gammes et aux personnes entre guillemets qui vont développer des choses derrière. Donc, quelque part un Unlock, bon bah il y a un esprit Istari qui s'en dégage dans ce qu'on n'a pas pu faire jusqu'au bout, ce qu'on aurait probablement pas pu faire chez Istari Games en fait au final, et que Space Cowboy nous a donné comme possibilité. Donc voilà, il y a un mélange de choses, une étiquette. Après j'ai envie de dire c'est quand même le jeu avant tout, et que c'est les expériences de jeu et ce à quoi bien sûr il y a des gens qui se rattachent à un éditeur particulier. Et pourquoi des gens s'intéresseraient pas à Kellus parce qu'ils aiment les jeux Space Cowboy.
Bien sûr.
Voilà.
Ce serait pour quand alors ce retour à Kellus? C'est un nom définitif.
Alors donc comme Orbis, du coup on vise Essen. Alors je pense qu'on est un petit peu serré en termes, donc ça sera plutôt fin d'année, on va dire, pour ne pas trop s'engager. Et donc du coup on proposera deux choses un peu différentes entre Orbis qui est assez léger, donc durée 3/4 d'heure, on va dire, et Kellus qui est un petit peu plus complexe. Mais on vise entre guillemets des parties d'une heure, donc un peu plus court que le Kellus.
Sur Kellus, ouais, d'accord. Mmh. Okay. Donc, du coup, on devrait retrouver les sensations de Kellus tout en ayant quand même quelque chose de différent et qui n'empêchera pas les vieux de la vieille de retourner à Kellus pour le coup.
Voilà, le mieux, c'est probablement de venir de voir sur un salon et de l'essayer pour savoir si ça vous plaît. Et on espère en effet que ça permettra aussi de faire découvrir à un nouveau public une facette de jeu un petit peu plus complexe, on va dire.
Bah écoute, voilà. Moi, je trouve que ça s'annonce plutôt pas mal, en tout cas. Moi, je suis un amateur de Oculus.
On verra bien. Alors, sur Unlock, d'ailleurs, si vous voulez que je parle, du coup, des nouveautés, on va avoir Unlock 4 qui va sortir pour juillet, plutôt fin juillet, on va dire. Mm-hmm. Et il y aura une boîte d'Unlock 5 qui sortira pour la fin d'année. Donc ça, c'est un peu pour les nouveautés. Il y aura aussi une boîte de le quatrième coffret de Sherlock Holmes, Détective Conseil, qui sortira pour la fin d'année. Et on a Time Stories. Un scénario Frères de la Côte qui sort pour juillet et un scénario Versailles qui s'appelle plutôt Madame, je pense, qui sortira pour la fin d'année, qui est, donc on est à Versailles, hein, autant de Louis XIV, et qui a un côté un petit peu assez atypique pour Time Stories, sans teaser, mais qui a aussi un peu des côtés de on flirte du côté d'Unlock, comme dans Unlock des fois il y a des moments où on a dit ah bah on flirte un peu du côté de Time Stories, notamment pour le dernier scénario Oz, qui avait un petit côté un peu plus narratif ou avec des quêtes et des choses comme ça, sans entrer plus dans les détails. Voilà, donc ça c'est un petit peu le planning de l'année.
Ok, super. Encore une petite question, vous avez sorti un transparent set là pour Time Stories?
Oui.
Avec une démarche quand même assez originale, je trouve, et plutôt louable. Tu peux nous en parler un petit peu?
Pas beaucoup. je vais probablement dire beaucoup de conneries. Oui, je sais qu'il y a, un transparent set. Je vous avoue, là, j'ai pas.
T'as pas trop suivi le truc.
Beaucoup plus d'infos là-dessus, à part que c'est très joli et qu'on joue avec, mais notamment on joue avec depuis. C'est ce qui a motivé. En fait, ils avaient fait au départ un transparent set un peu pour en mode pour jouer nous ça leur a tellement plu que ils se sont dit si on le faisait en mode un peu plus goodies, je suis pas sûr que ce soit un goodies, mais
pour le coup en fait c'est
apparemment on peut le gagner un peu genre sur Facebook actuellement, je crois que c'est ça. Après je vous avoue, j'ai un peu suivi ça de très loin, parce que disons que moi l'aspect fabrication et matériel, forcément je suis beaucoup plus distant maintenant. C'est beaucoup moins mon scope, donc j'ai je sais juste que les choses se passent. mais voilà.
Bon, en gros, ce qui a été fait, c'est qu'ils ont donné ce transparent set à des boutiques qui donc ensuite ont le loisir de le distribuer un peu comme ils veulent. Alors évidemment, il n'y a pas pour tout le monde. C'est peut-être aussi un peu ce qui peut faire un peu crier certaines personnes, mais moi je trouve que la démarche est quand même vachement sympa, quoi, parce que j'imagine que ça coûte pas zéro à produire.
Je pense que ça coûte assez cher. C'est ce qui a probablement, ça fait des années nous qu'on joue avec un transparent set proto. Je pense que c'est une problématique assez complexe pour Philippe qui s'occupe du Philippe Moret qui s'occupe de Time Stories, de la production. Je pense que c'est un vrai casse-tête en termes de coûts, en termes de quoi faire, comment, et que on essaye de trouver la meilleure solution pour faire plaisir à un certain nombre de gens, ne pas frustrer trop les gens. En effet, si après les boutiques, on gagne sur un ou sur une base de fidélité ou sur une base de tournoi ou sur une base de je sais pas quoi, ça regarde. Et après, c'est mieux globalement. De toute façon, c'est un petit pas. C'est en effet, on peut pas non plus distribuer de manière.
Mais c'est vrai que c'est curieux du coup de pas simplement se dire on va le vendre,
hop, 5 euros, 10 euros.
En fait, c'est vrai que c'est dommage parce que tu dis c'est donné, donc du coup c'est cool. Mais au final, ça frustre des gens, donc ça a pas forcément l'effet escompté.
Forcément les gens tentent des choses, on est toujours à l'écoute des retours et puis d'essayer de voir comment adapter. Je pense que s'il n'y a pas de commercialisation franche et volontaire, c'est que probablement c'est pas rentable. Il y a un moment c'est pas rentable pour l'entreprise. Alors après quand je dis pas rentable, c'est qu'à un moment ça va surtout coûter en fait, et que à la rigueur des opérations zéro, si on peut se dire que ça fait de la com autour du jeu, pourquoi pas. Je pense que globalement c'est en effet il n'y a pas eu de solution trouvée qui était satisfaisante.
Du coup ça se transforme en opération de com, parce que
globalement c'est l'idée. Et on préfère qu'on parle du jeu aussi. Après globalement c'est peut-être les joueurs peut-être les plus fidèles et les plus aficionados de Time Stories qui peuvent en être frustrés s'ils ont pas accès aux choses. Maintenant l'essentiel c'est quand même d'essayer de partager notre passion et de faire parler du jeu dans son ensemble. Je reste assez distant et neutre par rapport à tout ça. Moi ça ne me parle pas.
C'est pas de ta faute. C'est pas grâce à toi.
En tout cas, je vous rassure, je n'ai pas privé quelqu'un d'un set de goodies de transparent, puisque j'en ai pas pris pour moi. Voilà.
Okay. À moins que t'aies peut-être d'autres choses à nous raconter.
Je pense qu'on a fait un tour d'horizon des sorties de cette année, et forcément on aura des sorties l'année prochaine, mais je pense que c'est un peu tôt d'en parler. Okay. On est content, on a le soleil jusqu'à présent, on a chaud, on a du monde, on a pas mal de monde, on a un public différent entre le samedi et le dimanche. ça paraît plus famille le dimanche matin. Du coup, c'est plutôt Unlock qui s'est bien rempli vite et Orbis. Alors que hier, on avait plus les gens plus pour joueurs, du narratif. Ouais. Et après, ça s'est rempli aussi l'après-midi très vite sur toutes les autres tables. Mais ce qui est assez plaisant, c'est de voir que bah il y a encore un attrait pour Splendor. Quelque part, on parle toujours de des vieilleries entre guillemets. Donc Splendor qui commence à avoir 4 ou 5 ans, donc c'est une espèce d'antiquité. Et en fait, il y a plein de personnes qui sont encore là pour avoir envie de. Bah, j'ai entendu parler de Splendor, j'ai envie de l'essayer et qui repartent enchantés. Donc on sent qu'il y a l'envie encore et il y a encore le besoin de découverte. C'est aussi pour ça, on parle d'opération de com entre guillemets, mais quelque part on a fait aussi les extensions de Splendor principalement pour continuer à entretenir l'amour du jeu et le prolonger. C'est pas c'est pas une volonté mercantile à tout prix. Je pense que c'est surtout une volonté de se faire plaisir autour d'un jeu qui a été apprécié et qui continue d'être apprécié et que les gens l'oublient pas trop vite. Ce qui est pour l'instant en tout cas le cas et on espère le même cas pour tous nos jeux et pour toutes nos gammes parce qu'on a tendance à essayer de les pousser un petit peu. La notion de gamme est importante pour nous. Voilà.
Ok. Bah, merci beaucoup Thomas.
Bah, merci à vous.
Et bonne fin de festival.
Merci.